France Culture. Affaires culturelles. Arne Laporte.
Ce soir, je reçois Mathieu Amalric. Vers 19h45, le son du jour sera Horse de Kelly Forsythe. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui est en Autriche, à Vienne, et qui nous fera visiter ce soir une exposition sur la création et le grand succès connu par les films Sissi, l'impératrice. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Élise Leu à la prise de son. Bonsoir Mathieu Amalric.
Bonsoir.
Le festival Best of Doc vit sa 5e édition jusqu'au 19 mars. Alors je le rappelle, à cette occasion, 10 des meilleurs documentaires sortis en 2023 ressortent en salle avec des inédits, avec des avant-premières. Et c'est notamment l'occasion de voir ou de revoir en salle votre trilogie documentaire consacrée au musicien John Zorn. Trilogie qui sera bientôt une tétralogie. On verra jusqu'où ça ira et on va en parler. On va bien sûr parler de ces films et profiter aussi de votre venue pour... comme avec chacun et chacune de nos invités, revenir sur quelques moments importants de votre parcours artistique, essayer de mieux comprendre comment vous travaillez devant ou derrière la caméra, mais surtout derrière la caméra, c'est surtout au réalisateur que je vais m'adresser aujourd'hui. Ce qui est assez logique parce que vous avez eu très tôt l'envie de réaliser, vous avez commencé à le faire, vous êtes devenu comédien, dites-vous, par accident. Moi, je dirais que vous l'êtes devenu aussi par admiration pour des cinéastes.
Oui.
On va en évoquer certains, dire pour commencer que vos parents, Jacques Amalric et Nicole Zand, étaient journalistes au journal Le Monde, que votre mère a longtemps fait découvrir la littérature étrangère aux lecteurs de ce journal. Elle m'a fait beaucoup, beaucoup lire. Et vraiment, une très très grande pensée pour elle qui nous a quittés il y a quelques jours. Votre père, lui, était correspondant d'abord à l'étranger pour le journal, à Washington, puis à Moscou, puis chef du service étranger, rédacteur en chef du journal, directeur de la rédaction de Libération. Ensuite, de ce fait, vous avez, vous, Mathieu Amalric, vécu de 5 ans à 8 ans à Washington, de 8 ans à 12 ans à Moscou, à l'époque de l'Union soviétique de Léonid Brejnev. Et je me souviens d'une installation que vous aviez réalisée au Frénois, Studio National des Arts Contemporains à Tourcoing, qui était imprégné par ses souvenirs moscovites. Et du coup, je me demandais, en préparant cet entretien, en quoi vous pensez que ces premières années de votre vie à l'étranger ont pu façonner votre sensibilité, votre regard sur le monde ?
Elles l'ont fait complètement, c'est sûr. Je m'en rends compte de plus en plus. À l'époque, ayant vécu... passant directement de Washington à Moscou en pleine guerre froide, et ça me semblait être un ensemble absolument cohérent. C'est les yeux d'enfant, voilà. Et puis c'est seulement beaucoup plus tard que j'ai pu percevoir que c'était si différent. Mais non, c'était le théâtre, la musique, le cheval, les échecs... pas le cinéma encore.
Il y avait le souvenir de cette professeure de piano à Moscou, dans cette installation au Frénois.
Oui, c'est ça, au Frénois, où vous étiez aussi, Arnaud. On était là, et ce qui était beau, on était intervenant auprès d'artistes, de 8 artistes, et ce qui était beau, c'est que nous, il fallait aussi qu'on fasse quelque chose. Et oui, j'avais dépouillé totalement la maison de ma mère, tous les souvenirs russes, et je me souviens des guides, de la police, notre appartement à Moscou. Évidemment, il y avait des micros dedans, c'était l'appartement dédié aux correspondants du Monde. Et il y avait à la fois, voilà, c'est pour ça qu'il y avait un gardien de musée flic qui faisait des visites privées... de bout de ma vie, en pouvant manger du borscht avec, évidemment, par les fenêtres des films de Ottavio Celiani, qui est l'homme qui m'a donné envie de faire du cinéma et que j'ai rencontré là-bas.
On y arrive, mais ce goût du cinéma, il vient vraiment d'Ottavio Celiani, parce que vous étiez en Hippocagne et il vous demande de jouer un rôle dans un de ses films. Et c'est là que ça commence.
Oui, c'est Les Favoris de la Lune, c'est la découverte du plateau. C'est l'amour du plateau, c'est tous ces métiers qui font un plan. Oui, oui, c'est vraiment ça. Et la cinéphilie est venue suite à ça.
Ouais, parce qu'ensuite, vous laissez tomber l'Hippocagne, vous essayez d'entrer à l'IDEC, l'ancêtre de Thémis. Bon, ça marche pas, mais vous décidez quand même de vous lancer dans la réalisation. Premier court-métrage, un deuxième, un troisième, viendra un long-métrage. On va y revenir dans un instant, mais je voudrais évoquer ce soir votre parcours de comédien. Alors, qui vous verra remporter le César du meilleur espoir masculin, c'était pour votre rôle dans Comment je me suis disputé ma vie sexuelle dans nos Desplechins, puis deux Césars du meilleur acteur. Ensuite, au-delà des récompenses, ce qui est notable, c'est que dans votre filmographie, on voit que vous êtes à l'aise dans tous les registres, que ce soit pour être le méchant dans James Bond, Quantum of Solace, ou pour aller dans un opposé, dans un être lecteur janséniste pour Vincent Dieutre dans le fragment sur la grâce, tout en restant fidèle à Arnaud Desplechin, au frère Larieux. Peut-être pour évoquer cette part de votre activité, Mathieu Amalric, avant d'en parler, je vous propose d'écouter un extrait des entretiens à Wallin de Michel Piccoli au micro de Léa Radler, c'était sur France Culture en 2006.
Je trouve que la beauté du métier d'acteur, c'est d'une part révéler justement qui on est, mais de révéler qui est celui que l'on invente, plutôt que l'auteur a inventé, et que l'on invente avec l'auteur. Si c'est pour déclencher au spectateur l'émotion que l'on pourrait avoir, non. Il faut essayer complètement d'oublier qu'on est acteur, quand on est acteur. Ou alors, moi je prends comme grand exemple d'acteur, mais je suis bien obligé de parler puisque je ne suis pas lui, c'est Buster Keaton, qui ne parle jamais, mais qui vous raconte la poésie, le délire ou la farce de la vie d'une façon extraordinaire. Il est muet. Alors, ce qu'il y a surtout, c'est que l'acteur doit être muet devant sa propre émotion et son propre délire. Vous comprenez? Il faut que l'acteur soit d'une modestie énorme, mais en même temps qu'il s'amuse de dire ses textes ou grotesques, ou grandioses, ou philosophiques, ou très comiques, mais qu'il s'amuse à faire ça. Même si c'est René Char, l'intouchable, le soi-disant intouchable, même si c'est Shakespeare, un des plus grands auteurs dramatiques de tous les temps, mais qui était aussi un farceur extraordinaire, c'est certain.
Ce que vient de dire Michel Piccoli, Mathieu Amalric, j'ai l'impression que ça pourrait tout à fait s'appliquer à vous.
Oh, petit temps, quand j'ai eu la chance de le connaître un peu. Je me souviens d'une projection, c'était Dominique Paigny, quand il était directeur de la Cinémathèque française, et il a eu envie de montrer deux premiers films. Et il avait montré Mange ta soupe et Alors voilà, le premier film réalisé par Michel Piccoli, ensemble.
Jeune réalisateur.
Oui, vous imaginez, c'était... Et les films de Michel sont magnifiques. Et ils ont quelque chose à voir avec le cinéma d'Ottavio Celiani.
Absolument.
C'est pas un hasard si après, Michel a joué dans... C'est un film d'auteur.
Dans leur douce folie, dans leur poésie, c'est pas un gros mot, mais avec toujours ce sens comme ça, ce qu'il disait, c'est la farce quand même aussi.
La farce, la troupe, les choses qui se passent toujours en même temps, des paroles qui se chevauchent, on sait pas trop ce qu'on doit écouter, le bordel joyeux de la vie,
Et puis être capable de jouer tous les registres, alors c'est ce que vous faites aussi depuis très, très nombreuses années comme comédien, ça permet quoi justement de passer d'univers à d'autres si différents ?
Ça permet d'avoir une gourmandise de la vie encore plus accrue, ça me permet de... Tout d'un coup c'est des perspectives, je ne voyais pas le monde comme ça. si je suis avec les frères Larieux, je ne voyais pas que le désir pouvait être au centre, que lorsque je suis avec Arnaud, que nos vies pourraient finalement être des vies de héros, même au quotidien. On fait des choix shakespeariens, parce que Desplechin et Shakespeare, je pense qu'il y a des choses très proches à chaque seconde. C'est vrai que... Et c'est faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, voilà.
Faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, alors il faudra une émission entière pour parler du comédien, mais bon, j'espère qu'on le fera à une autre occasion, mais parlons du réalisateur Mathieu Amalric, et on en revient à Ottario Celiani, qui vous a donné des conseils au moment du montage de votre premier court-métrage, je crois qu'il vous a donné des dessins.
Oui.
Vous les avez toujours?
Oui, je les ai toujours.
Qu'est-ce qu'il avait dessiné?
Il m'avait juste montré comment on filme un personnage, un raccord, quand il sort du champ et comment après il rentre dans le champ. Il m'avait donné aussi une règle, ne jamais utiliser deux fois le même plan. Et ça, ça j'y pense souvent. C'est pas facile, tu peux pas le faire à chaque fois au montage, évidemment. Il y a un grand plaisir du chant contre chant, mais du coup, au moins tu conçois chaque plan, tu fabriques chaque plan comme un moment unique, quoi. Oui, oui.
Cinq courts-métrages avant le premier long, Mange la soupe, que vous évoquiez, qui sort en 97. Premier long-métrage très autobiographique.
Ah oui.
Mais qu'est-ce qu'il vous apprend à ce poste de metteur en scène, de cinéaste, dans les erreurs comme dans les réussites, des idées que vous pouviez avoir de ce que c'est que d'être cinéaste?
Évidemment, j'ai pas pensé comme ça. C'est comme Michel parle du plaisir, de la joie, je dirais d'abord qui est ça. Un homme qui joue au train électrique, vraiment, il était mathématicien et musicien, Ottar. Donc il faisait des dessins de tous ses plans avant. C'était des très très longues prises. C'est un cinéma qu'on peut associer des fois à Jacques Tati, vous voyez, qui ne va pas du côté de la psychologie. L'utilisation du son, d'une chorégraphie, des mouvements de personnages qui, même dans un plan large, tu peux créer une attention sur un objet. Mais je dirais vraiment, vraiment, c'était que j'avais trouvé... ma maison, enfin une situation, le plateau avec tous ces métiers qui font un plan.
Mais la maison, elle était très importante dans Mange ta soupe.
Alors la maison, les livres, bien sûr.
Circuler avec peine entre toutes ces piles de livres.
Voilà, où ça va, tout ce qu'on lit, est-ce que ça aide le schisme que je voyais chez ma mère, critique littéraire, avec une grande, grande finesse humaine et de la connaissance de l'âme humaine dans ses articles, qui n'étaient pas forcément appliqués dans son art d'être maternel. Voilà, je cherchais le... Et je pensais faire une comédie, c'est ça qui est... Plus touchant quand on pense à ce film aujourd'hui.
Alors, il y aura ensuite le stade de Wimbledon. Là, c'est une adaptation d'un roman de l'écrivain Daniel Del Giudice qui sort en 2002. Vous enchaînez très vite avec La Chose Publique. C'est à l'époque de la collection masculin-féminin pour Arte. Mais
ça pour Pierre Chevalier aussi, qui nous manque beaucoup.
Aussi, quelqu'un qui nous manque. Il faudra attendre 2010 pour Tournée, où vous obtenez le premier rôle, mais ce qui n'était pas prévu, qui va recevoir le prix de la mise en scène à Cannes. La Chambre Bleue en 2014, adaptation encore très personnelle d'un roman de Simenon. Vous réaliserez ensuite Barbara, projet que vous n'aviez pas initié, mais vous prenez et qui reçoit le prix Louis Deluc, qui voit Jeanne Balibar le César de la meilleure actrice. Le dernier film en date, c'est Serre-moi fort, adaptation d'une pièce de Claudine Galéa, Je reviens de loin. Il est sorti en 2021, là j'ai fait un récap très 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 rapide, mais pour évoquer ce parcours... justement, et revenir de façon un peu plus précise, on va quand même écouter Ottario Celiani, là encore au micro de Laura Adler, c'est dans Hors-Champ en 2014.
Le métier de cinéma se divise en plusieurs facettes. Là. Alors, la plupart des gens qui font le cinéma, ce sont les faiseurs de cinéma. Alors, eux, ils connaissent pas de musique, ils connaissent pas de peinture, ils vont pas au théâtre, ils écoutent pas les concerts, ils lisent pas. Pratiquement, être analphabète, c'est propre à cette catégorie de gens qui sont les faiseurs de cinéma. Il y a une autre catégorie qui lutte par les moyens qui leur tombent entre les mains, c'est les moyens d'avoir la caméra et de voir la réalité et dénoncer le mal qu'ils ressentent par la surface de leur peau tout le temps. Alors, la troisième catégorie, ce sont les philosophes qui essaient de réfléchir, d'avoir suffisamment de la musculature de la pensée pour transmettre tout ce qu'on pense, tous, nous, la plupart de nous en tout cas, sur le phénomène de la vie. Voilà. Ceux-là, c'est plutôt les cinéastes qui sont... qui jouissent de mon respect.
Alors, sans m'avancer beaucoup, Mathieu Amalric, on pourrait dire quand même que vous êtes dans la troisième catégorie, plutôt telle que définie par Ottavio Celiani.
C'est bon. Je vois ce qu'il veut dire quand il dit philosophe, il y a quelque chose de... d'un moraliste amusé, ou même les films que Pierre-André Boutan, par exemple, initiait, et il y a un portrait comme ça de la ville de Paris. Comment, il y a un côté lettre persane, si vous voulez. Voilà, Autard, filmant Paris, qu'est-ce que ça donne? Et il y avait ça dans Les Favoris de la Lune, avec tous ces personnages qui courent après une vacuité impressionnante.
Oui. Mais transmettre quelque chose de ce qu'est la vie, c'est quand même ce que vous faites, film après film.
Oh mon Dieu, vous savez, heureusement que on pense pas à tout ça, mais...
Alors pensons autrement.
Alors oui.
En reprenant votre filmographie.
Vous avez certainement raison, oui. Certainement.
Mais en reprenant votre filmographie, j'ai fait très très vite tout à l'heure, je me suis dit qu'il me semblait en tout cas que chaque film avait l'air d'être en réaction au précédent. Comme si en effet, après Mange ta soupe, très autobiographique, il fallait prendre le roman... qui soit vraiment, qui donne un objet purement cinématographique, quand ensuite on a la chose publique qui revient à une relation homme-femme, et ainsi de suite. Et tourner est un... Voilà, le titre est un programme. Il y a quelque chose comme ça chez vous, et ça c'est encore peut-être la peur de la répétition, et surtout l'envie de découvrir quelque chose de nouveau à chaque fois.
Oui, et puis c'est beaucoup lié aussi à mes amours, j'avoue. Et en tout cas, c'est certain que le stade de Wimbledon a été une réaction, en effet, à Mange ta soupe, qui m'avait paru être une ode au théâtre, plutôt, dans un lieu clos. Et je me suis dit, je suis pas sûr que j'ai vérifié mon désir de cinéma entièrement. Essayons de voir si j'arrive à faire un film absolument avec n'importe quoi. N'importe quoi. Je vais filmer n'importe quoi. Et j'ai pris un livre au hasard, mais vraiment, dans la bibliothèque des parents de Jeanne, Balibar, et je suis tombé là-dessus. Un homme part à la recherche d'un écrivain qui n'a pas écrit. Bon, voilà. Et Jeanne m'a tout simplement dit, mais si t'en fais une femme, on peut partir en vacances tous les deux. Et en fait, elle me disait, filme-moi, ce qui est la chose la plus importante au monde. Et c'est ce dont parle Judith Godrèche, justement, de ce contrat qui n'existe pas. Quand il faut faire ça ensemble. Il peut y avoir quelque chose d'absolument merveilleux dans cette frontière-là. Si c'est ensemble. Il me fait beaucoup penser à tout ça, bien sûr.
Mais alors, ce qui déclenche le désir d'un film... Alors, ça pourrait sembler différent d'un film à un autre, Mathieu Amalric, je viens de le dire, donc je vais presque me contredire, mais on peut voir d'une part qu'il y a des films qui sont des adaptations, il y a des films qui sont... Barbara, c'est pas votre projet au départ, il y a des films dont vous écrivez ou co-écrivez les scénarii, mais à chaque fois, il s'agit quand même de traiter d'en faire quelque chose de personnel.
Alors j'adore les commandes, et le personnel, tu sais bien qu'il va tout de suite arriver, c'est très encombrant, donc il n'y a même pas à s'en soucier, c'est d'autres personnes qui vont le détecter, il y a une nécessité, disons, plutôt, donner un os à ronger à l'équipe, et du coup, oui, un petit peu quand même avoir creusé, quoi, mais... Tourner, ça vient du suicide d'Humbert Balzan, mélanger un texte de Colette, vous voyez, ça crée un court-circuit. La peur pour Paolo Branco, enfin les producteurs indépendants à l'époque quand même, ça nous avait foutu les jetons. Et l'esprit de Colette que tout d'un coup je redécouvre complètement dans le monde du New Burlesque, avec Philippe Di Folco et Marcelo Telles avec qui j'ai écrit. Et ça naît comme ça. Barbara, c'est Pierre Léon qui devait le faire pendant 10 ans avec Jeanne. Il voulait faire ce film. Pierre Léon, je me suis inspiré de lui pour jouer le personnage de ce réalisateur complètement fétichiste. C'est Pierre. Et c'est pour ça que Pierre joue dans le film, joue Jacques Tournier jeune. Il fallait qu'il soit là. Ils ont pas, pour des raisons financières, réussi à monter ce film. Et lors d'un dîner, c'est un guet-apens, il me dit « Essaye-toi ». Et évidemment, je me suis dit, mais non, on va laisser Barbara tranquille quand même. Elle va pas avoir droit à son biopic. Comment faire avec Philippe? Ben, on faisait Philippe Di Folco. On a fait juste un travail historique parce qu'on n'arrivait pas à écrire. Et puis, je me suis rendu compte, c'est certainement lié au fait d'avoir filmé John Zorn déjà depuis plusieurs années. J'aime filmer les gens au travail. Et si je filmais Jeanne, qui... prépare un rôle. Voilà. Et à partir de là, il y avait le bonheur de refilmer Jeanne. Ça faisait 18 ans qu'on n'avait pas fait un film ensemble. Et voilà, quoi.
Mais
Donc c'est très intime en même temps.
Bah, oui.
Mais après, il faut travailler pour que ce soit...
Mais vous évoquez tournée, prime de la mise en scène à Cannes, vrai succès public aussi. Ça change quoi concrètement pour les films suivants?
Ça a été vraiment une grande, grande joie. Hein. Ensuite, ça a été quelque chose... C'est Yaël Fogiel et Laetitia Gonzalez, les productrices des films du Poisson. Et ça a scellé une amitié.
Elles ont le prix Daniel Toscan du Plantier, d'ailleurs, oui, aussi, avec ce film.
Et je dirais que c'est ça, c'est cette vie... avec les films du Poisson.
Alors, ce qui persiste, c'était un peu évident, c'est la croyance dans le cinéma. On ne pouvait pas vous recevoir sans entendre la voix d'Arnaud Desplechin dans sa masterclass sur France Culture en 2017, qui répondait à cette première question. Croyez-vous au cinéma ?
Oui, je crois, c'est un objet de croyance. C'est une foi. Je l'appelle souvent le... La question du cinéma, ça a ouvert une question en moi. Cette question n'a pas vocation à être refermée, mais ça me permet de questionner le monde. Et ça me plaît que vous utilisiez ce mot croyance. Je pourrais même le déplacer légèrement, vous disant, vous voyez, je suis sceptique de tempérament. Il m'arrive de douter du monde. Souvent, par exemple, on a l'impression qu'on vit des choses convenues ou attendues ou banales ou des choses comme ça. Il suffit que les frères Lumière apportent une caméra, qu'ils filment une rue et qu'ils la projettent. Et tout d'un coup, ce fragment de réalité projeté se met à vivre. Et je remarque très bien, quand je n'ai pas le temps d'aller au cinéma, je commence à douter du monde qui m'entoure. Et c'est un acte de foi. Quand je vais au cinéma, je crois au monde. Mais à la sortie de la salle, il y a un contrat pour moi entre le cinéma et le monde, le cinéma qui enregistre le monde et qui le projette, il y a un contrat qui est l'objet de ma croyance.
Vous êtes croyant, Mathieu Amalric, dans la même église que Arnaud Desplechin.
Oui, oui. Avec aussi, des fois il me dit « t'as de la chance », j'ai aussi une croyance profonde dans la vie, oui. C'est pas la vie ou le cinéma.
Ouais. Parce que fabriquer des films, c'est fait quand même de moments très différents, où effectivement, parfois, il faut vraiment y croire pour continuer. Il y a l'écriture, il y a les repérages.
Le financement.
Le financement, ce qui n'est pas tout à fait rien. Puis le moment de tournage, du montage, toute la production. Pour évoquer ces étapes, allez, une dernière voix à vous faire écouter ce soir, celle d'Alain René, dans l'émission Projection Privée. C'était en 93 sur France Culture.
Je dis souvent, en effet, que pendant l'écriture du scénario, je maigris de 7 à 8 kilos. Et à partir du premier jour de tournage, 100 grammes par 100 grammes, eh bien, mon poids normal revient. Donc c'est bien la preuve qu'il y a moins de tension pendant un tournage que pendant l'écriture. Oui, c'est vrai que quand on peut, sur un plateau, commencer à assembler des choses concrètes et tout, c'est beaucoup plus facile et puis beaucoup plus gai et beaucoup plus agréable, c'est vrai. En tout cas, l'image du petit garçon avec son mécano et qui essaie de voir si avec tel type d'engrenage ou tel type de construction, l'ascenseur descendra d'une manière plus synchrone avec les cow-boys qui sont en train d'attaquer le train en bas dans le château fort médiéval. Oui, c'est pas très loin tout ça, c'est vrai. Oui.
Alors vous avez tourné à deux reprises avec Alain René, Mathieu Amalric. Vous l'avez donc vu sans doute reprendre 100 grammes par 100 grammes. Mais bon, c'était pour le plaisir évidemment de l'entendre. Mais savoir comment vous viviez, vous, les différents moments de la conception d'un film. Où est-ce qu'il y a du plaisir à chaque étape? Est-ce qu'il y a de la douleur, de la difficulté à chaque étape?
Ou la douleur, c'est pas très très intéressant. Mais en effet, arriver à accéder à cette chose du train électrique, du mécano dont parle René par exemple, lorsqu'il faut savoir qu'il préparait tous ses plans avant que son scénario, qui est un découpage technique, il y a écrit collure. Parce que il était monteur avant et que donc on change de plan. Elles sont extrêmement précises. Ensuite, on répète dans des lieux où au scotch sont marqués les très espaces, précisément les espaces que Jacques Saulnier a dessiné. Il joue avec des Playmobil, vraiment pour déplacer les personnages dans une maquette qu'il a chez lui. C'est ça qu'il faut pas oublier. Je dirais que pour moi, c'est l'écriture le plus... vraiment là où il faut que j'aille creuser beaucoup, c'est pour ça que j'aime beaucoup les adaptations. Je tombe amoureux de l'écriture de quelqu'un d'autre et je suis un excellent lecteur. Claudine Galéa, je le mange et...
Bon, les chiens ne font pas des chats. là encore. Mais bon, depuis 2010 maintenant, en dehors des films sur John Zorn, le documentaire occupe une place importante dans votre travail de cinéaste. On va bien sûr parler des films sur John Zorn. Et puis vous êtes là aujourd'hui grâce au festival Best of Doc. Mais qu'est-ce que vous avez découvert avec le documentaire, Mathieu Amalric? Quelle part du cinéma ça a ouvert pour vous?
En fait, je me suis rendu compte que j'ai toujours beaucoup, beaucoup filmé. Là, avec la mort de ma maman, je me suis rendu compte que j'avais filmé ma grand-mère. Donc, c'est important, les grand-mères dans le cinéma, Eustache, etc. Mais j'avais fait la même chose quand j'avais 20 ans. J'avais filmé ma grand-mère à l'âge de 88 ans. Et j'ai fait la même chose avec ma mère aussi. À 88 ans, j'ai filmé ma mère, qui parle, qui raconte, qui retourne à Aubusson où elle a été planquée pendant la guerre. On avait retrouvé l'endroit. J'ai beaucoup, beaucoup filmé mes amoureuses. Je faisais beaucoup de photos aussi. J'avais appris la photo grâce à un homme qui est mort aussi cette année, Philippe Vermès. C'est lui qui m'avait emmené au enterrement de Jean-Paul Sartre, où j'ai eu cet accident au bras qui a fait que j'ai dû arrêter le piano, vous voyez, pour prendre des photos. J'ai toujours filmé. Et donc, cette chose qui s'est passée avec, à un moment, il y a eu Johann Svar aussi, où les films du Poisson m'ont proposé cette...
De filmer
au travail. Et ça m'a semblé une respiration avec le travail des gens. Là, maintenant, c'est beaucoup la musique. Non, c'est, ça m'est complètement naturel. Complètement naturel.
Alors, ce travail sur John Zorn, c'est un travail donc au long cours, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui. John
Zorn, c'est compositeur, improvisateur, saxophoniste, clarinettiste, producteur, arrangeur. Alors, la discographie, personne ne se risque à compter. On dit qu'il y a plus de 200 albums, je veux bien le croire.
Faut demander à Alex Dutille. Il y a que lui qui a pu écouter toutes les musiques de John.
Ouais, mais est-ce qu'il a le compte à jour? Je sais pas. Mais en tout cas, entre vous et ça commence en 2008. John Zorn vient à Paris pour jouer The Songs of Songs, un jazz à la Villette. C'est autour du Cantique des Cantiques, donc il vous demande d'en être le récitant. Et il se trouve que la semaine suivante, vous allez justement avec Alain René à New York. Vous passez un après-midi, parce qu'il est libre, parce que c'est Yom Kippour. La vie est quand même pleine de hasard et vous baladez avec lui dans New York. Et il y a quelque chose qui se crée là.
Sans caméra.
Oui, ça c'était vraiment une rencontre entre vous. Et puis une chaîne télé, 2 ans après, veut faire un portrait de John Zorn et se tourne vers vous. On est 14 ans plus tard, le projet est toujours en cours. Il y a 3 films qui existent déjà, qu'on peut voir ou revoir en salle grâce au festival Best of Doc. Alors, je disais, sa discographie, c'est une galaxie. Hein, il y a tellement de planètes différentes, beaucoup de formes de vie aussi, très très différentes. Alors, j'ai voulu faire quand même un choix pour cette émission, même si c'était presque absurde, mais pour l'entendre au mieux, j'ai décidé de choisir un morceau qu'il a créé avec le bassiste Bill Laswell pour l'album de Cleansing, qui est sorti en 2001. On va écouter le morceau qui donne son titre à l'album. voit déjà, en un seul morceau, Malric, combien John Zorn explore différents mondes. Oui. C'est vraiment quelque chose qu'il ne cesse de faire. Il expérimente, il cherche, il réunit autour de lui des musiciens extrêmement différents. Et complètement fascinant quand on commence à tomber dedans. Prévoyez du temps, hein, parce qu'effectivement, l'œuvre est immense, mais on comprend mieux pourquoi ce travail documentaire que vous réalisez sur lui pourrait ne jamais avoir de fin.
Oui, on a mis avec Caroline de Tournay, la monteuse, To Be Continued.
Oui.
L'amitié continue, on essaye d'être à la hauteur de ces musiciens, avec la caméra, avec le montage, avec la qualité du son, et on essaie que chaque film soit très très différent, les trois, et comme un bain d'admiration, en effet, le premier, où tu t'es plongé dans tout ça, même là, dans ce morceau qu'on vient d'entendre, on passe du klezmer à un moment, à des sons de bouche, où je sais pas ce que fait Laswell, mais c'est dément, quoi. Et ça me fait penser vraiment à cette phrase qui a déclenché le fait qu'on ait eu envie dans le Zorn 2 de mettre des phrases écrites sur l'écran qui est « It will never happen again ». Ça va plus jamais se reproduire. Ça sera jamais pareil. Et la joie vient de là. Voilà. Il faut toute une vie pour arriver à choper un moment que tu ne pourras... Il faut pas que ça puisse se refaire. Et c'est ce qu'on sent, là. L'instant. Et évidemment, les films ne sont pas des captations de concerts ou de disques, mais des situations dues au hasard quand nos vies faisaient qu'on se croisait et que il était en travail. En travail, toujours.
Effectivement, il y a une évolution de l'écriture selon les films. Alors, troisième, un peu moins de hasard, puisqu'il est plus resserré, puisqu'il est centré sur la création de
Jumalattaret. Déesse au pluriel en finlandais.
En finlandais, avec la chanteuse, lyrique et chef d'orchestre Barbara Hannigan, à qui vous avez également consacré plusieurs films documentaires depuis une dizaine d'années. Dans votre veine documentaire, mais évidemment pour John Zorn, on retrouve ce souci de ne pas vous répéter. Malric, il y a quand même ça aussi.
Oh bah oui, quand même, parce que si je filme sans thème, sans intention, vous avez parlé de la télévision au début, évidemment, j'ai jamais rendu les dossiers. Donc en fait, je fais ces films juste avec mon argent, tout seul. Et ces films n'ont normalement été projetés, ils étaient projetés lors des concerts uniquement. Donc une liberté absolue, pas besoin d'expliquer quoi que ce soit puisque c'est projeté devant un public qui sait tout de John Zorn. Et ben oui, du coup, il faut quand même pas se répéter quoi. On regarde, l'écriture commence avec Caroline de tourner au montage. C'est John Zorn qui déclenche le début du montage. Il dit hey, what about a second one in Lisbon? On va dire dans un an. Voilà, parce que dans le monde de la musique, ils savent longtemps à l'avance. D'accord, bon, j'appelle Caroline et on commence à regarder les images que j'ai pu ramener. Et des choses se dessinent. Et c'est pour ça que dans le troisième, lorsqu'on a vu les images tourner entre 2018 et 2022, j'ai pensé à Arras, j'ai pensé à Labarthe, André Labarthe, c'est-à-dire juste tu prends un détail, et ça pourra peut-être raconter le tout. Et à travers le trajet d'une nouvelle musicienne dans le monde zornien, donc Barbara Hannigan, qui travaille pour la première fois avec John Zorn, ça pourrait raconter ce que tous ces musiciens ont vécu, quoi.
Alors, évidemment, filmer un musicien au travail, ça pourrait paraître plus facile, c'est plus facile que de filmer un écrivain au travail, tout de même.
Oui.
Mais le documentaire, ça reste, vous le dites très justement, toujours une affaire de montage. Mais ça, vous êtes toujours là, vous êtes toujours présent au montage, ou est-ce qu'il y a des choses qui se font sans vous? Comment est-ce que vous procédez? Est-ce que ça change selon les fois?
D'abord, avec Caroline, on regarde tous les rushs ensemble et on bavasse. Et tiens, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça. Montrer ses rushs à quelqu'un, c'est très très intime. Hein. Tu vois tous les ratages, tu vois les obsessions, tu vois le fait que tu, pourquoi t'es pas au bon endroit. Enfin, c'est quand même, puisque je fais la caméra et le son aussi. Et puis, grâce au dialogue avec Caroline, on sent des obsessions, une obsession.
Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez compris au montage de vos obsessions sur ce travail avec John Zorn?
Le premier film, on savait que donc il allait être montré entre deux sets de musiciens. On s'est dit, il faut qu'on fasse comme un set musical. Donc c'est la musique qui guidait. C'était notre plaisir musical. Le montage du premier est vraiment uniquement musical et finissait. On avait la fin sur l'écoute. L'écoute commune de tous, écoutant tout le monde. Évidemment, les écoutes de John qui sont absolument sublimes. Il a une jubilation, il a ses rires, il a ce sourire, il a les yeux fermés. Il est toujours en bord de scène, il est presque au bord, un peu comme des Pleuchins quand il est au bord du plan, il veut rentrer dans le plan, il t'accompagne comme ça, voilà. Les musiciens lui donnent autant qu'il leur a donné, et ça finissait par cette constellation. Ça, c'était, on avait cette fin. Voilà. Le deuxième, évidemment, n'allait pas continuer une histoire d'admiration. Et c'est là où j'ai commencé à étudier la musique de John.
D'où les textes à l'écran.
Et voilà. Et du coup, je suis tombé sur ces choses-là qui nous ont vraiment créé une structure. Et qui permettait, l'air de rien, de raconter des choses de son enfance, de lorsqu'il allait dans des églises pour étudier l'orgue. Voilà, des choses comme ça. Ou qui transforme des hiéroglyphes en son pour son saxo, voilà, bon, comme notation.
Et ce troisième,
et le troisième, on s'est rendu compte qu'il se passait vraiment quelque chose dans cette salle de répétition. Et c'est vrai que c'est le moment où il y a eu le sublime documentaire sur les Beatles, avec les 9 heures. Et là, on s'est dit, ça nous a donné le courage de la durée. Enfin, on s'est dit, on peut rester 35 minutes sans s'ennuyer. Ah oui, c'est certain.
Je confirme. Ouais. C'est un des, enfin cette trilogie est un des, alors c'est, on triche, on a dit 10 films pour Best of Doc, du coup c'est 12, puisque le vôtre compte pour 3. Il y a notamment À pas aveugle de Christophe Cognier, il y a How to Save a Dead Friend de Marussia Siorochkovskaya, La Rivière, Dominique Marché, on a beaucoup parlé de ce film et à très juste titre, beaucoup d'autres, Le Poireau Perpétuel, un film qu'on aime aussi
Little Girl Blue
et Pierre Feuille Pistolet, Massiek Amé. Mais là, bon, parmi les films présentés dans cette édition
partout 2023, en
partout en France, vous allez sur le site Best of Doc et vous avez les séances.
Et on les accompagne.
Près de chez vous, on les accompagne, notamment mon excellent camarade Antoine Guillot qui présentera votre trilogie de John Zorn. Ce sera le 18 au Galaxy de Lecce, le 19 à l'Ellipse d'Ajaccio. Bon, on se revoit pour parler du comédien la prochaine fois. Merci Mathieu Amalin.
Non, merci à vous. Arnaud.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Longtemps habituée des séries télé en Grande-Bretagne, la comédienne Kelly Forsythe a récemment commencé une seconde vie dans la musique. En 2020, elle publiait Débris, un premier album hanté, baroque, foncièrement cathartique. Alors qu'un traumatisme l'avait temporairement privée de l'usage de sa langue, la musique a eu l'effet d'une thérapie. Mieux, elle lui a permis de polir une voix unique qu'un journaliste du Guardian s'est empressé de comparer au vibrato de Peggy Lee et au timbre de Nico. Après avoir sorti un second album, The Limb, en 2022, être apparu dans le film Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, Kelly Forsythe a annoncé la sortie d'un nouveau disque, The Hollow, le 10 mai prochain. Premier morceau, Horses, donne un avant-goût de ce projet qui fera appel à la musique sacrée, au minimaliste post-classique, au dark ambient et à la musique de film. C'est notre son du jour.
The fire must keep. My father must sleep. The fire must keep around this house. the fire must keep this fire must the fire this around this fire the bed it does creep my fire must keep this around this fire must keep the head it does my fire this fire must keep.
C'était Horse de Kelly Forsythe, extrait de son nouvel album The Hollow, qui sortira le 10 mai.
France Culture, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je suis toujours à Vienne, en Autriche, et quand on pense à la capitale autrichienne, difficile de ne pas penser à la trilogie cinématographique Sissi, avec notamment Romy Schneider qui continue son soft power depuis sa création dans les années 50. Alors à l'origine de ce grand succès, une famille viennoise et plus particulièrement deux frères, Ernest et Hubert Marischka, qui ont d'abord créé des opérettes, ils étaient d'ailleurs très reconnus dans le théâtre viennois de l'époque, puis se sont lancés dans ce grand film d'époque en costume. Le Theater Museum à Vienne propose en ce moment une exposition qui relate l'histoire de cette fratrie qui, depuis les opérettes jusqu'au succès du cinéma, ont lancé en grande pompe le show business viennois. Et surtout, dans cette exposition, on y découvre des archives, des traces, les coulisses de cette trilogie mythique. L'exposition s'appelle « Showbiz Made in Vienna, les Marischka » et c'est l'historien de l'art et le commissaire Roland Fischer-Briand qui nous fait la visite. On vient d'entrer dans une salle où je commence à reconnaître les protagonistes. Il y a des robes un peu partout. Je crois que vous allez commencer à nous parler de Sissi.
Absolument. Donc, il y a deux salles qui sont dédiées à Sissi. Et surtout aussi à la genèse de ce film, qui en fait, à ses débuts dans les années 30, en 32, où il y avait les premiers Singspiel, qui était donc une sorte d'opérette aussi, qui était avec la musique de Fritz Kreisler, sur le thème de Sissi. Mais là, c'est encore écrit avec double S, Y.
Là, on perd le Y. Sissi devient... Avec un I.
I, absolument. C'est en fait que cette Singspiel, donc cette opérette des années 32, qui avait quand même avait un succès, un grand succès. Les droits étaient vendus à la Columbia, à Hollywood, à la fin des années 30, où il y avait un film qui était fait d'après cette histoire de Sissi, donc, qui s'appelait The King Steps Out. Et, effectivement, ce film-là, il n'avait pas beaucoup de succès internationalement, mais au moment que dans les années 50, Ernst Marischka voulait reprendre cette pièce, les droits, en fait, il avait vendu à vie ou à pour éternité, en fait. Donc là, on voit aussi le scénario original de Sissi, donc du film. Lui, il avait bien marqué dessus qu'il s'est refaire au roman de Marie Blank-Eisman, qui était donc une autre source que celle des années 32. Là, on parle vraiment uniquement du premier des trois volets, donc du premier film.
Oui, parce que Sissi, c'est une trilogie, il y a donc trois films, et là, on parle du premier des trois.
Et donc, ce qu'on a quand même aussi dans cette exposition, c'est comme vous avez dit, remarqué, des costumes. Donc ça, c'est le costume original de la deuxième volée de Sissi.
C'est une très grande robe beige, ivoire.
C'est Sissi, die junge Kaiserin. Et effectivement, comme vous avez remarqué, elle n'est pas blanche, même si dans le film, elle apparaît tout à fait blanche. Mais d'un côté, bon, avec les décennies, il y a certainement un certain aspect écru qui est peut-être plus tellement blanc comme au début, mais il y a quand même un autre aspect, c'est un léger gris qui est inclus dans ce tissu parce que le projecteur, donc les spots du cinéma étaient tellement lumineux que si elle était vraiment blanche, on n'aurait plus rien vu.
Du tout.
Donc c'est ça. Donc ce serait uniquement du blanc.
Il fallait absorber la lumière, quoi.
Eh oui, et c'est pour ça qu'il y a un sort de voile gris pour avoir la meilleure image possible.
Il y a toujours des trucs dans le cinéma.
Ah, c'est fait pour. Et donc, nos collections sont aussi liées à ces productions de cinéma, même si c'est le musée du théâtre où on se trouve. C'est parce que Pierre Dago était la créatrice des costumes pour les trois films de Sissi. Donc, dans nos collections, dans nos fonds, on a les dessins originaux, donc des aquarelles, des gouaches, où on voit les différents des costumes, pas seulement pour Romy Schneider, mais vraiment pour toute l'équipe, pour
tous les personnages du film.
Absolument. Elle a fait 88 carnets.
Oui, là, on voit ses carnets de dessins exposés dans une vitrine.
Où les carnets sont vraiment très, très précises. Ben là, elle dit costumes, je vous dis, donc des études de 1880 à 1890, donc uniquement pour des coiffures et des chapeaux.
Oui, on voit devant nous, là, c'est très précis. Il y a sur une petite page, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 coiffes et chapeaux différents. Et c'est très précis, le dessin.
Elle s'est fait une sorte de sourcebook historique, donc de la mode historique. Mais ça, c'était bien avant que la production de Sissi s'avait fait. Et donc, dans les années 50, quand Ernst Marischka lui a proposé de faire les costumes, ben, elle avait déjà...
Elle était prête.
Elle avait déjà tout son vocabulaire qui fait quand même une histoire assez incroyable de cette Madame Gerdago, qui était Iro Gottstein, c'était son nom de famille.
Ich habe noch nie meiner Mutter einen Wunsch so gern erfüllt wie diesen. Sissi, ich liebe dich. Willst du meine Frau werden?
Nein, nie.
Und warum nicht?
Weil ich Nenés Glück nicht im Weg stehen will und weil ich ihr nie den Mann stehlen werde.
Aber Sissi, sei doch vernünftig. Erstens stiehlst du Nené nicht den Mann, denn ich bin noch nicht dann.
Un autre aspect qu'on a aussi dans cette exposition, c'est quelques œuvres contemporaines qui contextualisent des différents aspects donc, du travail de la famille Marischka, mais surtout aussi de Hubert und Ernst. Et donc une, c'est une sorte de leporello, donc un
Ah oui, c'est une frise, d'accord.
C'est une frise qui fait presque 6 mètres.
Ah oui.
Et donc, elle est assez grande ou assez longue. Et donc, ce qu'on voit, c'est en fait
un
diptyque entre des scènes du film, du tournage qui était tourné en même temps que la bataille
de
Budapest s'est produite. Donc, sur le côté gauche, vous voyez les photos du film en couleur. À droite, des photos de presse. Donc, de cette même année, donc aussi en octobre 56, Pendant que sur le côté gauche, vous voyez un Hongrois avec son violon, sur la droite, vous voyez une Hongroise avec une fusille. Mmh. Donc ce sont des instruments différents, et c'est aussi pour mettre en contexte, parce que c'est quand même le couronnement comme impératrice austro-hongroise. Donc
oui, c'est... dans le film, c'est ce qu'on voit à ce moment-là. Sissi est couronnée comme impératrice austro-hongroise, et en même temps que le tournage, à ce moment-là, il y avait des émeutes à Budapest, enfin une insurrection.
Une insurrection, et donc on voit la tête de Staline, ouais. Par exemple.
Fracturée en deux.
C'est ça. Et puis, donc c'est vraiment pour une sorte de synchronisation des événements historiques complètement à part.
Ich habe mir die ganze Zeit vorgesagt, bloß nicht hinunterschauen, bloß nicht. Da geht's nämlich senkrecht hinunter, bis nach Innsbruck.
Bien sûr, dans l'expression, il y a des extraits, il y a des petites... Il y a des écrans et avec des extraits du film.
Oui, des extraits du film, mais aussi des extraits de tournage du film. Là, ce qu'on vient de voir ou entendre, c'était le commentaire que Romy Schneider avait fait sur une production, une documentation de tournage. Mmh. Où on le voit avec le réalisateur, avec la caméra autour, en train de tourner sur les montagnes. Et bien sûr, Romy Schneider... bon, il y a trois parties. On lui a proposé un quatrième volet, mais elle avait décliné, même si il paraît qu'elle était. On lui a proposé un million de marques allemandes, donc ce qui était quand même aussi à l'époque déjà certainement pas mal. Et aussi pour voir que même que dans les années plus tard, elle voyait ça avec une certaine distance. Parce que c'était une sorte d'image qui collait sur elle, quoique elle était quand même une grande actrice de cinéma d'auteur, surtout en France. Et puis, des aspects où on voit qu'elle avait quand même encore une relation très amicale avec Ernst Marischka, qui est donc le réalisateur, même que publiquement, elle ne voulait plus être identifiée uniquement avec cet aspect de jeune fille, princesse.
De princesse, oui, il y a des rôles qui collent à la peau longtemps. Comment expliquez-vous qu'on soit si attaché à cette figure de la princesse Elisabeth, que ce soit en France, mais j'imagine aussi à Vienne? Pourquoi elle a cristallisé autant d'attention, cette figure-là?
Ben, je pense qu'il y a un beau mot allemand, ben j'essaierai de le traduire en français, c'est-à-dire « Die wahre Heimat des Menschen ist die Sehnsucht ». Donc, la véritable patrie de l'homme, c'est le désir. Et donc, avec des nouvelles comme on les a aujourd'hui aussi, chaque jour et tout ça, c'est bien compréhensible que les gens ont besoin ou ont envie de s'échapper. Et tout le show business, c'est en fait rien d'autre. Et donc, le théâtre, la scène, le cinéma... Tout ça, c'est une histoire que justement, qui revient souvent aussi à certains archétypes. Et donc, qui fait aussi vivre, dans le cinéma, dans le théâtre, on peut vivre des choses, des émotions qui sont quand même vraies.
Même si c'est projeté.
Même si c'est projeté ou même si sur scène, c'est mis en scène.
Bien, merci beaucoup pour cette visite. C'était très intéressant de revoir Sissi comme ça. Merci.
Avec grand plaisir. Merci à vous.
Suite de la valse demain, Marie Sorbier, où serez-vous?
Bien demain, Arnaud, direction Valenciennes, dans le nord de la France, pour la 11e édition du Festival de création contemporaine Cabaret de Curiosité.
Merci et à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Roberti.